1 Timothée, chapitre 1er, et on va lire versets 3, 4, ensuite 10 et 11. « Comme je t'y ai exhorté à mon départ pour la Macédoine, demeure à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies sans fin qui favorisent les discussions plutôt que l'œuvre de Dieu dans la foi. » Et ensuite, au verset 10, donc c'est un verset, il faudrait le prendre plus haut, mais il parle de la loi, verset 8, hein, il semble bien que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Et ensuite, après, au verset 10, il dit « Tout ce qui, en outre, est à l'opposé de la saine doctrine, d'après le glorieux évangile du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. » Voilà, là il parle en fait d'une part des doctrines, mais doctrine, c'est théorie et pratique. Hein. Doctrine, c'est les deux en même temps dans la Bible. Hein. Donc, la pratique, il parle des méchants, des indisciplinés, des impies, des pécheurs, des sacrilèges, des profanes, etc. Donc, tout ce qui est contraire à la saine doctrine, hein, c'est comme ça qu'il termine. Donc, je t'invite, je te recommande, dit-il à Timothée, serviteur de Dieu, de t'attacher à la saine doctrine d'après le glorieux évangile du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Ce matin, je voudrais m'attacher à souligner la notion de l'évangélisation, de l'évangile. Hein, qu'est-ce que l'évangile ? On utilise beaucoup le mot évangile. À qui s'adresse-t-il ? Qu'est-ce que c'est ? Et comment le prêcher ? Je ne vais pas trop détailler le comment aujourd'hui, mais je voudrais quand même souligner qu'aujourd'hui, et en particulier avec les moyens que nous avons, Internet et télévision et autres, on voit beaucoup de choses dans la manière d'annoncer l'Évangile qui n'est pas conforme à la saine doctrine. Des emphases qui sont mises sur différents points, en particulier le miraculeux, le spectaculaire, la guérison avec force, persuasion et autres. Non pas que Dieu ne fait plus de miracles, ni que Dieu ne guérit pas, mais la manière de le faire, la manière de le proclamer, est contraire à la saine doctrine. Mais ce matin, je voudrais plutôt m'attacher au contenu. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que l'Évangile ? Un des problèmes qui est récurrent pour l'être humain, hein, pas uniquement pour l'Évangile, mais par exemple les médecins, il y a des médecins qui se soignent très mal alors qu'ils sont médecins. Hein. Donc très souvent pour soi-même, on n'a pas assez d'égards, même si on est professionnel, même si on a toutes les capacités pour le faire. C'est comme ça. Et concernant l'Évangile, on part souvent de l'idée que nous chrétiens, nous connaissons le message, donc il n'y a pas besoin de l'apprendre, et nous l'apportons. Et ça, c'est une grande erreur. Parce que... Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, le technicien qui intervient. Ouais, vas-y, mets-le quelque part. Ça se voit pas. Voilà, merci. Pourquoi on a besoin des autres, hein ? Merci, Grégoire. Dans l'évangélisation, l'important, c'est la fidélité à l'Évangile. La fidélité à l'Évangile, qui est souvent négligée. Et les résultats qui sont obtenus, eh bien, sont souvent la seule mesure de l'efficacité de l'Évangile. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'on regarde aux résultats au lieu de regarder au contenu. Qu'est-ce que on proclame ? Quel est le contenu de l'Évangile ? Et ça, c'est la préoccupation de la Bible. Récemment, il y a un pasteur qui m'a demandé un entretien, un pasteur de la région, quoi. Et je l'ai reçu avec son épouse, et il m'a demandé si je voulais collaborer à une action d'évangélisation qu'il allait entreprendre avec le soutien à Paris, etc., etc. Bon, alors je l'ai beaucoup écouté, et avant de lui dire ce que je pensais, et à un moment donné, il m'a dit, voilà, j'ai même une feuille, il y avait deux feuilles, 21, 29, 7, et sur cette feuille était écrit qu'il garantissait, dans la région du Montois, il garantissait qu'on aurait 10 000 conversions en 6 mois. C'est-à-dire au mois de juin, on avait 10 000 conversions. Voilà. Toutes nos églises exploseraient. Enfin, c'était, voilà. Et donc, il m'a dit, voilà, si vous voulez signer, vous signez, enfin, comme un contrat, vous voyez. Donc, vous signez, vous venez, enfin, voilà. C'était toute une présentation très, très rationnelle qui m'était faite. Alors, je me suis permis de lui dire un petit peu comment je voyais les choses. Mais vous voyez, on fait souvent de l'évangile un moyen ou de marketing ou de promotion, mais quel est le contenu réel? Et je sais que le contenu que lui diffuse n'est pas conforme à l'évangile. D'où l'affirmation que l'évangile est à la base même de l'évangélisation, le fondement sans lequel notre témoignage n'a pas de sens. Si nous témoignons sans que nous sachions ce que c'est que l'évangile, eh bien c'est hors de sens. Alors j'aimerais dire que tout d'abord, trois points importants à propos de l'évangile. Premièrement, c'est un fait. Il faut avoir une ferme assurance quant au contenu de l'évangile, que l'évangile présente des faits comme des réalités objectives. Un fait, Jésus est mort et ressuscité il y a 2000 ans. C'est un fait. Le Saint-Esprit est venu pour eh bien, créer l'Église, l'Église qui est le fruit de l'action du Saint-Esprit, rappelez-vous, à la Pentecôte, etc., etc. Ce sont des faits qui sont des réalités objectives et qui ont une signification pour l'homme d'aujourd'hui, qui doivent être transcrits dans une signification. Il faut les expliquer, il faut leur dire en quoi consistent ces faits. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le contenu lui-même. Tout d'abord, quand on évangélise, on attend une réponse. Vous êtes d'accord, hein? Bon, ce pasteur, il attendait 10 000 réponses de conversion. On attend une réponse à l'évangélisation. Mais quelqu'un peut se convertir. Mais vous savez, la conversion, ce n'est pas propre au christianisme, hein? On se convertit à l'islam, on se convertit à la politique, on se convertit. Enfin, la conversion, c'est un changement à demi-tour, quelque part, pour quelque chose, pour une cause. Mais l'authenticité biblique de notre conversion dépend directement de l'authenticité de l'évangile que nous proclamons et auquel va répondre la personne à qui on parle de l'évangile. Je veux dire que suivant le contenu qu'on présente, la personne va répondre à ce contenu. Et donc c'est notre responsabilité de présenter un contenu correct. Et la réponse logique, c'est la repentance et la foi. C'est ce qu'on voit dans l'Église primitive, c'est la première des choses qu'on attend d'une réponse authentique à l'Évangile. Et non pas simplement, oui, je suis guéri, je vois des anges, c'est formidable, je suis dans le monde spirituel. Vous voyez, c'est la repentance et la foi. Le chrétien qui ne se préoccupe pas de comprendre clairement le message qu'il va proclamer s'expose à conduire les personnes à lui-même et pas à Christ. Ça, c'est un grand danger. Et c'est souvent le cas des évangélistes, justement, qui ne prennent pas soin de bien réfléchir au contenu qu'ils proclament. Mais dans la manière de proclamer cela, eh bien, ils attirent souvent plus les personnes à eux qu'à l'évangile. Et ça, on a vu beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont passé dans cette église et qui, malheureusement, ont terminé très mal suite à ce genre d'exercice. Donc, le contenu, l'authenticité par rapport à la parole de Dieu. Le troisième fait important, c'est l'expérience. L'expérience que quelqu'un fait, si elle est véritablement chrétienne, eh bien, elle découvre l'évangile. Elle découvre pas simplement Dieu, hein, parce que Dieu, on peut appeler Dieu tout ce qui est divin, tout ce qui est spirituel. Donc, elle découvre le contenu de l'évangile. N'est chrétien que l'expérience qui est issue de l'évangile. Il semble, mais ce n'est pas spécifique à l'expérience que les hommes d'affaires, vous avez vu, hein, la fille de l'imam là qui a partagé son témoignage, qui était mélangé avec de l'occultisme, avec des anges qu'elle voyait, etc. Bon, c'est pas spécifique à ce que vous avez vu aux hommes d'affaires. C'est assez courant que une réponse d'une expérience, eh bien, elle n'est pas conforme à l'évangile, elle est conforme à une spiritualité, à une expérience spirituelle. Mais aujourd'hui, vous savez, le Nouvel Âge en particulier en témoigne, et André Malraux, qui était un ministre français, qui était lié à Jean Cocteau, dit que le XXIe siècle, donc il avait dit ça début du XXe siècle, enfin dans les années 40, que le XXIe siècle ne serait, enfin s'il existait, si on y arrivait jusqu'au XXIe siècle, il serait spirituel. Et cette spiritualité, c'est une autre spiritualité que la spiritualité chrétienne. Et c'est vrai qu'on est dans un monde spirituel, enfin, où les gens s'intéressent au spirituel. Pourquoi ? Parce qu'ils sont déçus de toutes les idéologies qui n'ont pas marché. Que ce soit le communisme, qui a fait beaucoup rêver, en particulier en France, dans moitié du premier siècle, du dernier siècle, mais aussi le capitalisme maintenant avec toutes les déceptions financières, tous les systèmes que les hommes proposent déçoivent. Mais le spirituel maintenant il fait rêver. Mais c'est du bricolage spirituel, c'est-à-dire que les gens veulent que toutes leurs expériences, eh bien, ce soit la vérité. Or nous, nous sommes au service, non pas d'une expérience, nous sommes au service de l'Évangile. Alors, dans le Nouveau Testament, je n'ai pas fait attention. Normalement, il passe en séquence. Hein, il passe en séquence. Donc, tu reviens en arrière, si tu veux. Je n'avais pas vu que tu commençais à projeter. Les séquences, elles marchent. Donc, en arrière, je ne vois rien pour l'instant. L'arrière, c'est du blanc ? Non, je ne crois pas. Bon, comme je ne maîtrise pas, donc je ne sais pas ce qui va se passer. Normalement, le fichier devrait montrer des diaséquences en fonction. Voilà, donc évangéliser, tu peux continuer. Le contenu, on a dit que c'est ça qui faisait l'authenticité de l'évangile et de l'évangélisation. Ensuite, voilà les faits sur la réalité objective. Donc là, on n'en est pas encore là. On va voir ça tout à l'heure. Donc, tu reviens juste un petit peu en arrière. Attends voir. Je suis un peu perdu. On va voir un peu plus loin, juste pour voir ce qui est présenté après. J'ai plus ma clé USB, alors je suis tributaire d'Internet, et là, ça me gêne. Vas-y. Là, j'ai plus ce qu'il y a dessus. Ah bon, c'est lent ? Ah oui, parce qu'il rame. Bon. Alors, un problème technique maintenant. C'est dommage parce que ça va être difficile à suivre si ce n'est pas dans l'ordre. Le contenu peut être défini par le mot qui vient après, en principe. Voilà. Evangelion. Evangelion, c'est ce qui est dans l'original grec, hein, qui est l'évangile. Alors, cet évangile, tout d'abord, c'est un message qui est prêché. Si vous prenez dans Marc, je vous obligé à chercher un peu dans la Bible, en tout cas je vous le lis, vous pouvez le rechercher chez vous. Marc 4, verset 23. Marc 4, 23. C'est un message qui est prêché. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. L'évangile est prêché. Ensuite, c'est un évangile dont on peut témoigner. C'est dans Actes chapitre 20, verset 24. Un évangile dont on peut témoigner. Actes 20, 24. Et maintenant, voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'arrivera. Seulement, de ville en ville, le Saint-Esprit atteste et me dit que les liens et les tribulations m'attendent. Et un peu précédemment, il parle de la proclamation aux Juifs et aux Grecs, la repentance envers Dieu, envers la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on témoigne de l'Évangile. Ensuite, on peut le proclamer. C'est 1 Corinthiens chapitre 9, verset 18. 1 Corinthiens 9, 18. L'Évangile est proclamé. Car bien que je sois libre, donc c'est en évangélisant juste le verset précédent, d'annoncer gratuitement l'évangile sans user du droit que l'évangile me donne, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Donc, l'évangile est proclamé. On peut faire connaître l'évangile. C'est dans Éphésiens chapitre 6, verset 19. On peut connaître, faire connaître l'évangile. Éphésiens 6, 19. Ainsi, et aussi pour moi, que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'évangile. Le mystère, c'est pas le mystérieux, hein, c'est le fait qu'un jour, cet évangile qui était caché a été révélé dans l'histoire, dans un temps donné. Ensuite, on peut l'annoncer. Je vous donne la référence, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 2. On peut aussi l'entendre, hein, Acte 15, verset 7. C'est un message qu'on peut croire, hein, dans Marc, chapitre 1er, verset 15, un message qu'on peut croire. Car il est grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni... Non, c'est Marc, pas Luc, pardon. Marc, chapitre 1er, verset 15. Donc Jésus disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Et bien sûr, on peut le recevoir. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 1er. L'évangile peut être reçu. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme. Et donc l'évangile, c'est pas simplement un message comme un autre, hein. Il est prêché, on peut en témoigner, on peut le proclamer, on peut le connaître, on peut l'annoncer, on peut l'entendre, on peut le croire et on peut le recevoir. Et Paul, dans un épisode où il s'adresse aux Galates, développe très longuement sa position par rapport à l'évangile et par rapport aux faux évangiles, ou tout au moins les évangiles qui ne sont pas authentiques. Et il dit cela dans Galates, au chapitre 1er, au verset 6. Voilà comment il exprime cette désapprobation aux Galates. Il dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu pour passer à un autre évangile. » Voyez-vous, donc, il y a le vrai évangile, il y a un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit, anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Voyez-vous, il insiste vraiment très très fort, hein, sur cet autre évangile. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Annoncer l'évangile, le contenu de l'évangile, dans la manière dont on le reçoit, dont on le connaît, on peut utiliser comme manipulation, manipulation des autres. Et ça, c'est très très tendancieux, hein. Sans même qu'on y réfléchisse, ça vient tout seul. Et ça a toujours été le problème de l'Église, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a tellement d'églises, de dénominations, hein, différentes, parce que il y a eu d'autres évangiles qui ont été annoncés et qui, pour certains, sont pris en compte par ces dénominations en question. Mais nous sommes tout à fait à la merci de nous ne sommes pas mieux que les autres. Hein. C'est pas parce que ceux qui nous ont précédés étaient mauvais que nous ne sommes bons. Donc, il faut faire très attention que nous ayons bien en tête le contenu de l'évangile pour l'annoncer tel qu'il doit être annoncé et le prêcher tel qu'il doit être prêché. Dans, disons, la question qu'il faut se poser pour essayer de discerner un petit peu le faux du vrai, c'est est-ce que l'évangile, est-ce que ça doit répondre ou est-ce que son contenu est authentiquement biblique? Voyez-vous, si nous voulons que l'évangile, on ait une réponse, qu'on ait du résultat, effectivement, on est tout prêt à partir sur les faux évangiles. Parce qu'on va utiliser l'évangile pour obtenir du résultat. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si on cherche à être authentiquement conforme à l'évangile, bien sûr, ça ne flatte pas notre ego. Comme le dit l'apôtre Paul, il dit « Si j'avais voulu plaire aux hommes, je m'y serais pris autrement. » Et on comprend. Hein. Paul, il avait toutes les capacités pour plaire aux hommes et pour pouvoir avoir l'approbation des hommes. Mais ce n'est pas ce qu'il recherchait. Il cherchait à être authentique par rapport à l'évangile tel qu'il l'avait reçu de Dieu. Alors, le terme utilisé, Evangelion, de la même manière que Ecclésia, rappelez-vous, quand on a fait le message sur Ecclésia, Ecclésia, ça veut dire quoi? Voilà, ça veut dire, bien sûr, église, on le traduit en église, mais ça veut dire assemblée. Donc c'est un mot neutre, et Evangelion, c'est un mot neutre. Ce n'est pas un terme religieux, comme par exemple synagogue, hein, qui est un terme spécifique qui parle de l'assemblée des Juifs. Evangelion n'est pas un terme religieux. Donc, c'est pour ça le contenu qu'on y met, on ne peut pas uniquement dire évangile. C'est l'évangile de, ou évangile de, ou évangile de. Vous voyez. Par exemple, l'évangile, le terme Evangelion, qui veut dire nouvelle, dans l'Ancien Testament, par exemple, signifie simplement apporter des nouvelles. Si par exemple vous prenez le passage, mais d'autres passages qu'on pourrait prendre, des lépreux, vous voyez, des lépreux qui ont vu que les ennemis sont partis, on dit qu'ils ont apporté l'évangile au roi. C'est-à-dire qu'ils ont apporté la nouvelle, les nouvelles au roi. Vous voyez, ils sont rentrés vite fait, parce que le roi ne savait même pas que les ennemis étaient partis. Et donc on dit que les lépreux sont rentrés dans la ville, ils ont apporté l'évangile. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas l'évangile de Jésus-Christ, c'est pas l'évangile de contenu. C'est simplement, ils ont dit au roi, ouais, ça y est, tous les ennemis ont disparu, vous pouvez y aller, il n'y a plus d'ennemis dehors, vous pouvez sortir de la ville. Ça signifie des nouvelles qui sont apportées. Si vous prenez Ésaïe commence déjà à préparer un petit peu l'évangile de Jésus-Christ au chapitre 40. Jusqu'au chapitre 46, il parle d'apporter de bonnes nouvelles. Donc là, l'évangile, Evangelion, commence à prendre le terme de bonnes nouvelles. Si vous prenez les Grecs, hein, puisqu'on est dans la langue grecque, les Grecs, Evangelion, signifie la nouvelle annoncée par un évangéliste. C'est celle de la victoire. Par exemple, il levait la main. L'évangéliste en question, hein, grec, il levait la main, il disait « Soyez heureux, nous avons gagné ». Voyez-vous, quand il y avait une victoire qui était acquise, quand il faisait des campagnes militaires, quand il revenait, il disait « Soyez heureux, nous avons gagné hein ». Donc l'évangéliste, il proclamait l'évangile. Au premier siècle, donc l'église primitive, l'église de Jésus-Christ a été proclamée face à d'autres évangiles. Il y avait tout plein d'évangiles qui voulait apporter le salut à l'humanité, ne serait-ce que toutes sortes de philosophies, de pratiques, sans parler des gnostiques qui mélangeaient tout le mysticisme et tout ça. Et nous sommes dans la même configuration aujourd'hui. Pendant une période de l'histoire, il y avait des religions, ce qu'on appelle monolithiques. Le christianisme, le judaïsme, bon après le protestantisme est apparu, mais vous voyez, on canalisait un petit peu les choses. Bien sûr, en dessous, il y avait toutes sortes de courants, mais aujourd'hui, toutes sortes d'évangiles sont disponibles. Sur Internet, vous allez, tout un tas d'évangiles, hein, ne serait-ce que le yoga, qui est un évangile, hein, qui vous annonce la sérénité, qui vous annonce le bien-être, etc. Vous voyez, toutes sortes de salut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Evangelion, évangile, il faut bien mettre du contenu derrière, parce qu'en lui-même, il n'a pas de contenu chrétien. Ce qui est primordial, c'est que c'est l'évangile de Jésus-Christ qui est prêché. Alors, on va voir les caractéristiques donc, le mot suivant qui apparaît devrait être le bon, les caractéristiques de cet évangile, du contenu de l'évangile. Tout d'abord, je ne sais pas si ça vient, tout d'abord le royaume s'inscrit dans le temps. Enfin, l'évangile est une annonce qui décrit l'histoire. Tu as cliqué ou pas? Parce que je ne sais pas si c'est tellement long qu'on se demande. Donc, voilà. Cet évangile, dont le contenu nous est demandé d'être authentique par rapport à la Bible, il doit s'inscrire dans l'histoire, dans le temps. Bon, il y a un terme qui est consacré à ça, c'est l'eschatologie, c'est ce qui parle du temps. Et ça, c'est très important de savoir que c'est un fait qui s'est passé dans le temps. Comme je le disais tout à l'heure, Jésus est venu il y a 2000 ans. C'est un fait. Et ça, c'est très très important parce que même les protestants au XIXe siècle sont arrivés à cause de la critique historique, parce qu'on était rentré dans le scientifisme, et comme on n'avait pas de preuves de l'existence de certaines villes en Palestine, on remettait en cause l'autorité de la Bible, parce qu'on disait, dit n'importe quoi, ces villes n'existent pas, etc. Et jusqu'à remettre en question l'existence de Jésus-Christ, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'historiens qui relatent la vie de Jésus-Christ telle que nous la décrivons, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Hein. Donc tout ça a fait que ceux qui voulaient être purement scientifiques, ils ont remis en cause l'existence historique, y compris de celle de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Et ça, c'est pas des catholiques qui l'ont fait, c'est des protestants. Il faut bien en être convaincu qu'on peut en arriver jusque-là au niveau des faux évangiles. Donc tout d'abord, l'évangile s'inscrit dans l'histoire, dans le temps. L'évangile au premier siècle, quand il a été annoncé, cet évangile-là s'inscrivait dans l'attente d'un Messie. Les Juifs attendaient un Messie. Et ce Messie était annoncé dans toute la période de l'Ancien Testament, hein, donc tous les 2000 ans qui précèdent la venue de Jésus, il était annoncé comme un Messie qui allait délivrer Israël. Un Messie qui allait apporter le salut à Israël. Et Jésus, quand il se présente, la première chose qu'il lit du contenu des Écritures, c'est à propos de lui-même, Jésus accomplit toutes les prophéties qui ont été annoncées concernant ce Messie. Vous voyez? Donc déjà là, on est dans l'histoire. L'histoire des prophètes qui annoncent le Messie, l'histoire de Jésus qui incarne le Messie, et Jean-Baptiste proclame ce temps dans lequel se trouve Jésus, se trouvent ces premiers croyants. Il dit, repentez-vous car le royaume de Dieu s'est approché. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Quand Jean-Baptiste annonce, parce qu'il a préparé la voie du Seigneur, il a préparé ce que Jésus allait faire pour une ère qui est l'ère de l'Église. Quand Jean-Baptiste dit « Le royaume de Dieu s'est approché de vous », repentez-vous quand le royaume de Dieu s'est approché. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire que le royaume de Dieu était plus loin, d'accord, puisqu'il s'est rapproché. Donc le royaume de Dieu, bien sûr, il existait, mais il n'était pas encore activé, je dirais, sur la terre. Et qui est-ce qui a le royaume sur la terre? C'est Satan. C'est Satan. C'est pas l'homme. Hein? L'homme n'est qu'une marionnette. Hein? L'homme, il pense être le roi du monde. En fait, c'est Satan. Parce que l'homme a donné ses droits à Satan. Au lieu de les donner à Dieu, il les a donnés à Satan. Ça, c'est le principe de la chute. Donc, le royaume de Dieu, il existe bel et bien, mais sur la terre, c'était Satan. Et donc, Dieu a proclamé le salut en disant, les choses vont changer. Il a prophétisé sur un Messie qui allait venir pour délivrer l'humanité, mais il s'est adressé à Israël en premier temps, parce que le Messie va sortir d'Israël. Donc les promesses viennent d'Israël. Mais ce Messie était prévu pour l'ensemble de l'humanité. Mais les Juifs, comme toujours, hein, un peu comme les évangéliques qui se croient au centre de tout, et puis ou notre petit nombril, hein, c'est très humain, hein. Les Juifs pensaient que c'était pour eux. Mais ils n'ont pas compris le plan du salut. Le plan du salut, c'est que Jésus sortait des Juifs, de cette lignée des promesses qui ont été faites à Abraham, mais que le Messie qui allait venir, c'est un Messie universel pour toute l'humanité. Comme quoi, quand on est dans un faux évangile, on ne voit pas le vrai évangile, il faut être très attentif. Donc, Jean, en fait, il est en train de clore une période, le temps de la promesse. Avec Jean-Baptiste s'arrête une ère, ou un siècle, ou un aïon, si vous voulez, c'est une période de temps qui s'arrête. Toutes les prophéties qui ont été faites, elles s'arrêtent là. Et il y a un nouveau temps, une nouvelle ère, un nouveau siècle qui démarre. C'est l'ère où va s'accomplir le royaume, l'accomplissement du royaume de Dieu. Ça veut dire que, avec Jésus, le royaume de Dieu est accompli. Mais le royaume de Dieu s'est approché des êtres humains, de l'humanité que nous sommes, et il a commencé à faire une œuvre, hein, un peu comme quand vous commencez à chauffer de l'eau. Hein. Au début, il y a des petites bulles qui se forment, et ensuite, après, ça chauffe. Et l'accomplissement se fera au retour de Jésus. L'achèvement de l'accomplissement. Mais l'accomplissement a commencé au moment où Jésus, bien sûr, a accompli les prophéties. Donc nous sommes, une fois de plus, dans des fêtes, voyez-vous. L'histoire s'inscrit dans le temps, dans des fêtes. Le fait, c'est le fameux kairos, hein, c'est-à-dire là où l'éternité rencontre le chronos, le temps, à un moment donné, il se passe quelque chose. Et c'est Dieu qui est à l'origine de cette initiative. C'est le temps fixé par Dieu pour l'accomplissement de son plan de salut. Nous sommes dans quelque chose qui est historique. Le contenu de l'évangile n'est pas théologique, mais c'est un événement, à savoir la venue du royaume de Dieu, l'arrivée d'une réalité que tous nous pouvons vivre avec le Seigneur. Et Jésus est le fameux héros, hein, le héros, vous savez, qui annonce les guerres, etc. C'est vrai que Jésus a annoncé la guerre à Satan. Et il l'a vaincu. Il l'a annoncé avant sa mort, avant sa résurrection, et il a réellement vaincu à la croix. L'évangile, c'est pour ça qu'il est inséparable d'un appel à la repentance et à la foi. Parce qu'il s'agit de cet événement où on rencontre celui qui nous a sauvés de nos péchés, la personne de Jésus. Il est dit qu'à la fin des temps, le royaume est activement présent parmi les hommes. Et la fin des temps, c'est Jésus qui l'a inauguré. La venue de Jésus, c'est le début de la fin des temps. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que, dès l'Église primitive, ils attendaient la venue de Jésus. Ils attendaient, parce qu'ils étaient dans la fin. Nous sommes dans la fin. Depuis 2000 ans, nous sommes dans la fin des temps. Vous voyez, la fin des temps n'est pas simplement l'Apocalypse, hein. Ça, c'est l'événement apocalyptique. Ça va venir. Mais nous sommes dans l'accomplissement de la fin des temps. La fin des temps, c'est la venue de Jésus qui l'a démarré. Et dans le texte que nous lisons à chaque Sainte-Cène, la doxologie, la louange au Seigneur, on nous montre que Jésus est le Seigneur, le Kyrios, le Seigneur. Il est Messie, le Messie d'Israël qui est venu, mais il est devenu Seigneur de tous, roi des rois, Seigneur des seigneurs, comme nous le chantons. Et aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu et il règne sur tout l'univers. Tout ne lui est pas soumis, parce qu'il est dit que pendant ce règne, qu'il a commencé il y a 2000 ans, eh bien, il attend que le Père lui mette tous les ennemis sous ses pieds. Et nous participons à cette victoire. Et vous, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que nous participons à cette victoire. Alors, si nous sommes passifs, nous ne participons pas à grand-chose. C'est pour ça que le christianisme n'est pas passif. Le christianisme, c'est quelque chose de très actif. C'est d'être conscient que nous participons à l'accomplissement du royaume de Dieu. Et quand nous prions pour un malade, pour sa guérison, eh bien nous participons à l'établissement du royaume de Dieu. Quand nous chassons les démons, nous participons à l'établissement du royaume de Dieu. Quand nous élevons nos enfants selon le Seigneur, nous participons à l'établissement du royaume. Quand nous proclamons l'évangile, nous participons à l'invitation. Vous voyez, c'est-à-dire que notre service pour Dieu est un service pour établir le royaume. Alors, et c'est ça la vision que nous avons de l'Église, c'est que si Dieu nous a appelés ici, dans cette ville, c'est pour que nous puissions participer à l'établissement du royaume de Dieu. Alléluia. Ça vous enthousiasme? Ça donne du sens à notre vie. C'est que nous rentrons dans un plan qui est beaucoup plus grand que le nôtre et qui est une réalité, qui n'est pas simplement une fiction, qui n'est pas simplement une idée, qui n'est pas simplement une projection de notre intention. Non, c'est une réalité. Et c'est le terme basiléa qui est utilisé pour certains, ils n'ont pas compris qu'il y a le basiléa et l'ecclésia. Le basiléa, c'est le gouvernement, le règne de Dieu. Et Dieu règne. Moi, je crois que Dieu règne. Alléluia. Malgré les difficultés qu'on voit, malgré les choses qui ne sont pas comme on voudrait, Dieu règne. Mais pour l'instant, il laisse la libre volonté, le libre choix des humains, y compris des chrétiens, de s'engager dans ce règne ou de ne pas s'engager dans ce règne. Et c'est pour cela que tout dépend de notre niveau d'engagement avec le Seigneur pour participer avec lui à ce gouvernement. Et ceux qui sont appelés au-dessus, disons, de la masse de l'Église, je dirais, du commun des mortels, ce sont les serviteurs de Dieu qui sont appelés et ils font partie de ce basiléa, de ce règne, de ce gouvernement, et ils sont responsables de cet évangile du royaume. Le deuxième caractéristique de l'évangile, un, il s'inscrit dans le temps, deux, il porte Christ qui est au centre. Christ au centre. L'évangile et Jésus-Christ, souvent c'est... Quand vous lisez bien les textes, dans certains cas, l'apôtre Paul, entre autres, mais aussi les autres, prennent à la place de Jésus, ils prennent l'évangile. Donc Jésus et l'évangile, c'est au même niveau. Ça peut être le même concept. Pourquoi ? Parce que l'évangile contient l'histoire de Jésus, contient ce que Jésus a fait. Donc, c'est pour ça que quand on parle de l'évangile, alors bien sûr, les catholiques vont très loin, puisque quand ils lisent l'évangile, l'évangéliaire, en fait, ils l'embrassent, ils le prennent, etc., enfin, contrairement aux épîtres, etc. Bon, sans aller jusque-là, mais il y a cette notion de comprendre que l'évangile, c'est pas un vain mot, c'est la personne de Jésus. L'évangile incarne la personne de Jésus. La clé se trouve dans ce mot basiléa que je dis tout à l'heure, c'est ce royaume dynamique. C'est-à-dire, c'est pas un royaume qui est statique, hein, où Dieu envoie des intendants pour régner sur la terre. Non. En fait, c'est une coopération par le Saint-Esprit. Dieu nous utilise les uns les autres dans l'évangélisation à coopérer avec lui pour sauver des âmes, pour guérir, pour libérer les personnes. En tant que Seigneur glorifié, aujourd'hui il est glorifié, Jésus, il a envoyé son Saint-Esprit. Il a dit, j'enverrai mon Esprit. Et les apôtres, ils ont attendu à la Pentecôte pour recevoir l'Esprit. Il a dit, attendez ici, parce que tout seul, vous ne pourrez pas accomplir l'œuvre pour annoncer l'Évangile. Vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous. Ils ont attendu et ils ont reçu le Saint-Esprit. Alors je sais que certaines églises, j'en ai connu une quand je me suis converti, qui attendaient le Saint-Esprit, mais... Vous savez, ce temps, c'était pour la Pentecôte, avant que le Saint-Esprit ne vienne. Aujourd'hui, il n'a pas besoin de l'attendre. Il faut le recevoir, c'est vrai. Il faut être ouvert au Saint-Esprit. Il faut exercer les dons du Saint-Esprit. Mais il n'y a pas besoin de l'attendre. Mais bon, il y a des techniques d'attente du Saint-Esprit. Soyons authentiques dans notre vie chrétienne et le Saint-Esprit sera avec nous chaque jour. Jésus a envoyé son Saint-Esprit, ça c'est le démarrage de l'Église. Et c'était pas longtemps après sa résurrection. Mais c'est cette ère qui a commencé pour l'Église. Et il accorde maintenant ses bénédictions et ses dons à l'Église dans cette ère nouvelle. C'est-à-dire que le royaume de Dieu, comment est-ce qu'on peut voir qu'il existe ? Le royaume de Dieu aujourd'hui. On ne voit pas le royaume de Dieu, le règne de Dieu, on le voit par les effets. Or, les effets doivent se voir dans l'Église. C'est le seul endroit, enfin, l'endroit privilégié que Dieu utilise parce que ses enfants qui l'acceptent comme Seigneur et qui le mettent dans leur vie comme Seigneur, eh bien, ils peuvent jouir des bénédictions. Nous, aujourd'hui, on peut jouir des bénédictions du royaume qui seront pleinement à venir, mais qui aujourd'hui déjà sont présentes. Bien sûr, nous sommes toujours liés à notre corps mortel, à nos maladies, à nos problèmes, à nos difficultés, etc., parce que c'est le lot du péché, les conséquences du péché. Mais nous pouvons aujourd'hui jouir des bénédictions du royaume. Et c'est quand nous le croyons, comme je le disais tout à l'heure, l'évangile se croit, l'évangile se proclame aussi, mais il se vit quand nous croyons cet évangile et nous vivons les bénédictions du royaume. Et c'est pour cela, dans la vision de l'Église, nous disons que nous voulons que les familles de l'Église puissent être des familles qui vivent dans la dignité et l'excellence. Voyez-vous ? On peut prétendre à l'excellence et à la dignité dans les familles, entre autres, si on vit le royaume de Dieu et si on le reçoit comme une bénédiction présente. Et la mission, bien sûr, Dieu nous donne une mission, c'est d'évangéliser. Mais en fait, nous poursuivons la mission de Jésus. Ce n'est pas une nouvelle mission. Simplement, nous continuons la mission de Jésus et avec son esprit. Jésus était serviteur, mais il est Seigneur. Et il est dit qu'il est la puissance et la sagesse de Dieu. Donc Jésus-Christ au centre. Et troisième caractéristique de cet évangile, c'est le salut. C'est un message de salut. Si tu peux prendre la prochaine. C'est vrai qu'il faudra qu'on le mette là-dessus parce que c'est tellement lent. Que... Voilà. Message de salut, dont le terme est exact. Le but du ministère de Jésus n'est pas de créer une nouvelle religion. Voyons, on parle de christianisme, mais Jésus n'est pas venu créer le christianisme. Comme Bouddha a créé le bouddhisme, comme les chrétiens ont créé le christianisme à partir de Jésus. Non, Jésus n'est pas venu pour créer une nouvelle religion. Mais il est venu pour que nous puissions proclamer la bonne nouvelle concernant un événement qui est arrivé, qui est le royaume de Dieu qui s'est approché de nous et qui est venu accomplir les temps de la fin. Voyez-vous ? Donc il faut bien faire attention quand nous parlons de l'évangile, quand nous parlons de la parole de Dieu. Ce n'est pas une religion avec un contenu très complexe où il faut tout expliquer, non. C'est simplement le fait que nous annonçons un événement qui est arrivé, qui a bouleversé les choses. Et d'ailleurs, les premiers chrétiens étaient bouleversés. Et nous devrions être bouleversés. Quand nous annonçons l'évangile, nous disons, voilà, dans l'histoire, il s'est passé quelque chose qui a déterminé le cours des choses. Et si nous rentrons dans cette histoire, si tu rentres dans cette histoire, eh bien toi aussi, tu vas connaître la bénédiction. L'arrivée de cette nouvelle ère, de ce nouveau siècle, c'est la venue du royaume manifestée dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus apporte la victoire pour toute l'humanité, pour tous. Et là, les Juifs n'ont pas compris, parce qu'ils pensaient qu'il apportait la victoire à eux. Nous, on pense peut-être qu'il apporte pour nous, mais Dieu l'apporte pour toute l'humanité. Et la perspective du Nouveau Testament du salut, c'est un salut qui est un salut de délivrance, qui délivre de tout ce qui contrecarre le plan de Dieu. Et si nous voulons être dans le plan de Dieu, il nous faut chercher, eh bien, la présence de Jésus dans nos vies. Et je termine par la définition du salut. C'est la délivrance des conséquences du péché et c'est la délivrance de la puissance du péché. Tu peux mettre l'autre diapositive, en principe, elle doit décrire cela. Donc, la délivrance des conséquences, nous ne sommes plus à la merci des conséquences du péché, puisque Jésus nous en a délivrés, et il nous libère de la puissance du péché. C'est-à-dire que tout le péché qui nous attaque aujourd'hui, nous avons la puissance pour y résister. Donc ce n'est pas une nouvelle religion, mais la nouvelle du salut en Jésus-Christ est la suivante qui doit porter la suite. Et pour terminer, ce que le salut apporte, il apporte du sens à nos vies. Il transforme notre vision en nous donnant la vision spirituelle. Nous devenons consacrés, nous devenons saints. Il nous donne une transformation morale aussi, du bien. Il nous aide à faire le bien. L'apôtre Paul dit, et les autres apôtres aussi, bien nous sommes appelés à faire le bien. Et nous détourner du mal. Et ça, c'est aussi ce que le salut nous apporte, c'est de pouvoir faire le bien. Il nous apporte les dons du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas tout seuls, nous recevons le don de l'Esprit qui nous aide de manière dynamique dans ce salut. Et il nous apporte une restauration complète, corps, âme et esprit. Bon, pour certains, ils discutent du problème de la relation d'aide. Bon, mais la relation d'aide, c'est pour aider notre âme hein, à être délivrée des conséquences du péché, etc. La restauration, le salut est une restauration totale de la personne. Et certains évangiles, en particulier dans le premier siècle, mais aujourd'hui aussi, le salut, et qui était mélangé au christianisme, c'était de dire, si vous faites en sorte que votre corps, qui vous cause un tas de problèmes, vous l'éliminez, eh bien vous serez sauvé, vous pourrez vivre, votre âme pourra s'épanouir, etc. Bon, aujourd'hui, c'est le yoga qui prend ce relais, mais tout un tas de disciplines spirituelles et mentales qui prétendent apporter ce salut. Or, le christianisme ne s'inscrit pas du tout, dans cette malédiction du corps. Il dit simplement, oui, le corps, effectivement, il est lié, enfin, les conséquences de la chute font que le corps, il souffre, hein, mais il n'y a pas que le corps, il y a toute la création qui souffre et qui attend ce salut en Jésus-Christ. Donc, vous, si vous avez des problèmes dans votre corps, eh bien, demandez à Dieu de le réparer, de le guérir, c'est ce qu'on fait dans la prière de guérison. Mais on ne peut pas maudire le corps ou faire de l'ascétisme, c'est-à-dire le priver de nourriture en dehors des choix qu'on fait pour jeûner. Mais on ne le fait pas dans le but de nous sauver. Or, tous ces évangiles qui sont parallèles, eh bien, font tout un état du corps. Or, le corps, ce n'est pas un obstacle au salut. C'est simplement, il faut dépendre du Seigneur, et le Seigneur nous permet de vivre dans ce corps que nous avons. Mais c'est la dépendance au Seigneur qui est importante. Voilà, donc le salut apporte une transformation spirituelle, donne du sens à nos vies, une transformation morale, aide à faire le bien, nous donne les dons du Saint-Esprit et nous restaure totalement. Et l'expérience de l'Évangile que nous pouvons faire, l'expérience, c'est notre corps glorifié justement. Mais ça, ce sera l'accomplissement des temps de la fin. La description de l'évangile du salut, eh bien, c'est surtout le contenu qui doit être clair, que nous ne cherchions pas à pousser des choses, laisser le Seigneur faire des choses dans la vie des gens, mais nous, à ce que nous soyons fidèles au contenu. Et l'apôtre Paul a demandé à toutes ces églises, soyez fidèles à ce contenu. Parce que si vous n'êtes pas fidèles, le résultat ne sera pas conséquent. Vous aurez peut-être des expériences spirituelles, parce que l'ennemi s'arrange pour avoir donné des expériences spirituelles. Mais l'expérience du salut en Jésus-Christ ne pourra être effective, et l'authenticité de cette conversion ne pourra être effective que si elle est conforme à l'authenticité du message de la parole de Dieu.